France Info.
Et bienvenue à tous dans l'émission politique de France Info, une demi-heure en somme, comme tous les matins, avec Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Fabienne.
Et Gilles Bornstein et Guy Birenbaum, et notre invité ce matin, est candidat à l'élection présidentielle pour le nouveau parti anticapitaliste.
Bonjour Philippe Poutou.
Bonjour.
Vous étiez déjà candidat en 2012. Cette campagne est très différente de la précédente, celle de 2017.
Non, je pense pas. Elle est différente, forcément, parce que 5 ans après, à notre avis, les choses sont plus dures, quand même. Plus de difficultés pour nous, pour notre camp social. Une société aussi un peu plus violente, et puis une situation internationale certainement plus préoccupante. Voilà. Donc, c'est plus, globalement, c'est plus difficile. Mais après, une fois qu'on est dedans, ben, on essaie de défendre nos idées. De toute façon, c'est toujours difficile de défendre nos idées quand on est minoritaire.
Pour parler de vous encore une minute, vous êtes davantage protégé à cause des menaces d'attentats?
Non. Je sais qu'on a on a à disposition, si on le demande, donc une protection de l'État et pour l'instant, enfin par principe et puis par habitude, on se protège nous-mêmes.
Voilà. Pourquoi donc, vous méfiez de la police nationale?
Non, pas du tout. C'est par habitude. voilà. Donc on a. Je ne voyage pas seul. Je ne me déplace pas seul. On fait le boulot entre camarades. Donc c'est une habitude plutôt qu'autre chose. Donc là, on continue comme ça. Ouais. Alors, on sait qu'on a été sollicité. Enfin, on nous a reproposé. Et voilà. Donc ça nous va comme ça. Pour l'instant, on n'a pas de problème aussi particulier. Donc c'est
D'accord. Donc pas de protection particulière, en tout cas.
Non, s'il
y en a une, vous l'assurez vous-même.
Voilà, ouais.
D'accord. 2012-2017, vous avez changé quelque chose à votre programme? On n'a pas l'impression. Hein.
Non, je crois que c'est exactement la même chose, mais la société,
le
c'est
monde
exactement...
change, mais où
non, mais
pas.
C'est bien, vous avez bien lu, mais non, le monde change. Ben non, il change pas, ça s'aggrave. D'ailleurs, ce qu'on dit, c'est, quand on parle d'urgence, c'est, ben en fait, là, 5 ans après, on parle d'urgence plus urgente encore. Mais en réalité, voilà, c'est exactement les mêmes problèmes, sauf que, ouais, tout est plus grave, plus de pauvreté, plus de précarité, moins de services publics, peut-être plus de racisme, plus de brutalité dans la société, voilà. Donc, ben nous, les réponses politiques qu'on avait il y a 5 ans, c'est les mêmes, ouais, effectivement, cette année.
Alors, en lisant votre programme, la France, parmi d'autres, a un problème, c'est la dette, 2150 milliards d'euros de dette. Alors, vous n'apportez pas de solution à ce problème. Vous supprimez le problème.
Voilà.
Mais
c'est une solution. L'annulation de la dette, c'est une solution qui était en discussion. Non, pas fastoche. La preuve, c'est que ça ne se fait pas où ça a été discuté au moment de la crise grecque, hein, il y a 2 ans, hein, où ça a été abordé, ou au moins supprimer une partie de la dette, où il y avait eu un audit pour voir ce qui était illégitime dans la dette et ce qui ne l'était pas. Donc, ouais, nous, ce qu'on discute, c'est que c'est un mécanisme aujourd'hui qui, on s'aperçoit, qui justifie des politiques d'austérité, qui permet de pomper encore plus de richesses du côté des services publics ou de la collectivité pour les concentrer du côté d'une poignée de riches. Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des riches ultra riches et les banques qui organisent, y compris même la fraude et l'évasion fiscale. Donc, la réponse, ben ouais, c'est non seulement l'annulation de la dette, mais c'est aussi l'expropriation des banques. Nous, on est pour un monopole public bancaire sous contrôle des salariés de la population. En tout cas, on veut enlever les moyens de nuire aux capitalistes et leur enlever cet outil-là qui permet de tricher et de voler l'argent.
Mais la dette, c'est un peu virtuel en fait pour les gens, mais ça reste de l'argent, c'est de l'argent qu'on doit. Donc si on annule la dette, ça veut dire qu'on ne nous prête plus jamais, ça veut dire que les taux d'intérêt augmentent, ça veut dire qu'il peut quand même y avoir un effet boule de neige qui peut être...
C'est pour ça qu'il faut contrôler les banques. C'est pour ça qu'il faut contrôler les banques, il ne faut pas les laisser, de toute façon ils en font n'importe quoi. Les années passent, la dette augmente, parce qu'on peut toujours dire l'annulation de la dette c'est une idée de dingue, mais n'empêche que laisser la dette telle qu'elle est, c'est catastrophique pour l'ensemble de la société. C'est une dette qui explose, et puis c'est des banquiers qui font des milliards de profits aussi, parce que quand même, vous savez que le quart des profits des banques européennes sont planqués dans les paradis fiscaux. Donc ça, c'est les chiffres officiels. Donc on voit ce qu'ils en font. Donc de l'argent, il y en a. Et en fait, la dette, on la rembourse à qui? Aux plus riches et aux banquiers. Donc oui, il faut supprimer cette dette-là. Nous, on le dit tranquillement. Et ça permettrait justement au gouvernement ou aux États, en tout cas, de mener des politiques sociales. Puisque c'est au nom de cette dette-là, au nom du déficit de l'État, qu'après, il faudrait justifier des rigueurs et des politiques d'austérité et donc s'attaquer aux services publics et au niveau de vie des gens. Donc oui, nous, la réponse politique urgente, c'est justement ça, de rompre radicalement avec tout ça. Donc supprimer la dette et exproprier les banques.
Gilles Montagne.
Autre exemple, alors pas virtuel du tout, pour le coup, vous proposez de supprimer les licenciements. Alors on voudrait comprendre votre raisonnement. Comment une entreprise dont le carnet de commandes baisse s'adapte-t-elle?
Ben, ça a plusieurs niveaux. Donc nous, le mot d'ordre, par exemple, ou la revendication de l'interdiction des licenciements, c'est par rapport à ces vagues de licenciements d'entreprises qui font des milliards de profits. Hein. On peut parler des gros licenciements sur le plan national, SFR. Moi, je bosse dans une usine.
Mais là, vous portez une interdiction générale.
Mais là, justement, je suis en train de vous répondre. C'est là, donc il faut laisser la réponse aller jusqu'au bout.
Hein.
Donc il y a
prie.
Plusieurs niveaux. Donc l'interdiction des licenciements, c'est la première chose. C'est une réponse à ces plans de licenciement de centaines ou de milliers de salariés aujourd'hui dans des entreprises qui font des milliards de profits et qui se portent très bien. Donc ça, c'est la première. Oui, donc nous, on dit interdiction des licenciements. Et là, même, c'est assez facile à imaginer qu'on impose donc à des entreprises comme ça de répartir le travail et de maintenir le travail entre tous et tous. Maintenant, après, évidemment, il y a la question des petites entreprises, surtout des toutes petites entreprises, parce que même même les PME, PMI qui sont souvent à faire du pognon aussi, oui. ou qui sont qui rendent des comptes aux donneurs d'ordre. Donc on pourrait aussi discuter comment les grosses entreprises pourraient. Et alors les tout petits, ben nous ce qu'on discute, c'est qu'il faudrait développer la sécurité sociale. Et en fait, le problème, c'est d'assurer un travail. C'est pas tellement d'interdire les licenciements, c'est de faire en sorte que l'ensemble de la population ait la garantie d'avoir un emploi. Et la garantie d'avoir un emploi, c'est la garantie d'un revenu.
Donc 32
nous,
heures.
Nous, ce qu'on discute, oui, donc c'est pour ça qu'il y a à la fois l'interdiction des licenciements, l'arrêt des suppressions d'emplois dans les services publics, et puis la réduction du temps de travail hebdomadaire qui permettrait de répartir le travail entre tous et tous, et donc à la fois d'arrêter que des gens galèrent dans le chômage et la précarité, et d'arrêter aussi que d'un autre côté, des gens galèrent au travail, parce qu'en fait, les réductions d'effectifs et tout ça, c'est de plus en plus de travail pour les gens qui restent au boulot. Il y a une surcharge de travail, qu'elle soit physique ou mentale. Donc la solution, ça paraît quand même de basique, c'est de répartir le travail entre tous et tous. Et donc là, la question, c'est comment on finance ça, évidemment. Et donc, c'est une sécurité sociale. C'est prendre l'argent dans les profits. C'est pour ça que nous, on discute...
Heureusement qu'il y a des profits, parce que dans tous ces raisonnements-là, heureusement que les capitalistes génèrent du profit, parce que sinon, vous financez rien.
Oui, mais c'est pour ça qu'il y a du chômage. Mais c'est pour ça qu'il y a du chômage.
Mais il n'y a que le capitalisme qui peut financer votre programme.
Non, mais vous découvrez un truc, c'est pour ça qu'il y a du chômage. C'est parce qu'il y a des milliards de profits. Mais les milliards de profits, ça vient d'où? Ça vient de l'exploitation de ceux qui bossent. C'est le vol, justement, du travail de millions de gens. Donc c'est pour ça. Et après, nous, c'est justement ça. On discute d'un système économique qui devrait fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'on n'est même pas seulement dans l'interdiction des licenciements. Nous, on pense qu'il faudrait réquisitionner, exproprier et prendre le contrôle de secteurs entiers de l'économie. Parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, le capitalisme, il est incapable de faire qu'il y ait une société qui réponde aux besoins de la population. Il en est incapable. C'est du chômage, de la pauvreté. 8 millions de gens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté. C'est énorme. Donc aujourd'hui, on pense que cette incapacité des capitalistes à organiser une société normale qui répond aux besoins des gens, eh bien, il faut leur enlever les moyens de nuire, il faut leur enlever le moyen de diriger tout ça. Donc c'est pour ça qu'on pose des problèmes d'une économie qui serait planifiée, organisée et sous
ça
contrôle.
Ça n'a jamais marché quand ça existe.
Ça n'a jamais marché, ça a été surtout très peu tenté. Mais ce qui est sûr, c'est que le capitalisme, ça ne marche pas. Voilà, donc après,
mais
qu'est-ce qu'on
dit ? Ça n'a jamais marché.
Mais le capitalisme fait la démonstration, lui, ne fonctionne pas. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on apporte comme solution ? Si c'est pour avoir des solutions à la Fillon, pour dire on va continuer à supprimer les emplois dans les services publics et on va attaquer la Sécu, on sait très bien que ça ne marchera pas. Tout le monde sait très bien que ça ne marchera pas. Donc il y a un moment donné, il faudra qu'on discute quand même de quelles solutions politiques pour trouver des réponses et faire en sorte que surtout la population, elle récupère un niveau de vie décent.
Philippe Poutou, cette discussion continue dans une minute tout pile. Il est 8h40, l'essentiel, signé Victor Mattey.
Il doit durer près de 2 mois devant la Cour spéciale d'assises de Paris. Le procès de la cellule djihadiste dite de Khan Torsi débute ce matin, considéré comme le plus important démantèlement terroriste en France depuis le GIA algérien des années 90. 20 de ses membres sont jugés pour un attentat contre une épicerie cachère de Sarcelles, c'était en 2012, également d'autres projets d'attentat. À 72 heures maintenant du premier tour, dernière chance de convaincre à la télé ce soir pour les 11 candidats, une série d'entretiens individuels sur France 2. Hier soir encore de nombreux meetings, Benoît Hamon, place de la République à Paris, Marine Le Pen à Marseille, Emmanuel Macron à Nantes. Notre invité Philippe Poutou était à Aubervilliers. L'usine PSA de Poissy dans les Yvelines bloquée toute la nuit par des ouvriers du sous-traitant GM&S. Mobilisation contre la disparition programmée de leur usine de la Creuse. Ils ont déjà manifesté hier sur les Champs-Élysées. Et puis eux représentent fièrement le foot français en Europe. Les joueurs de Monaco qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions en éliminant Dortmund. Victoire 3-2 à l'aller, 3-1 hier soir. Également qualifié la Juventus Turin qui a sorti Barcelone.
France Info. C'est Philippe Poutou, l'invité politique de France Info ce matin. Et la question, c'est vous, Gilles Bernstein.
L'économie administrée que vous proposez, eh bien, elle est à l'œuvre quelque part, c'est au Venezuela. Et on voit que ça ne plaît pas à la population parce que là, c'est vraiment le peuple qui est dans la rue. Donc ça ne marche pas et on a l'impression que vous ne le voyez pas.
Non, mais nous, c'est pas ça qu'on revendique non plus. Enfin, administrer, vous dites, je sais pas. Nous, on discute d'une économie planifiée sous contrôle des salariés de la population. C'est quand même pas du tout le cas au Venezuela. Il y a un régime qui se dit ou de gauche ou un peu qui étatise, effectivement. Mais nous, on parle pas d'étatisation. On parle pas de nationalisation. On parle d'une véritable société où la population a le contrôle, d'une véritable démocratie
pareil,
directe.
C'est
pas le cas là-bas. Vous savez très bien. Il y a des manifestations, évidemment, contre la crise, contre les effets de la crise.
L'étatisation ou sous contrôle de la population, c'est la même chose.
Ben non, c'est pas pareil. Ben non, il y a une nuance. Voilà, l'État, c'est pas la population, l'État. Aujourd'hui, le gouvernement, l'État, c'est pas la population. On le voit bien. Fillon, c'est pas la population.
Les
gens qui piquent dans les caisses publiques, c'est pas la population. Donc voilà, les mœurs corrompues des politiciens qui sont au service de l'État, c'est pas la population.
C'est une appropriation collective des moyens de production.
Nous, on discute vraiment et on pose le problème d'une économie qui soit vraiment sous contrôle des salariés de la population, d'une véritable démocratie directe où il y a la possibilité pour l'ensemble des gens de décider de ces choses-là aujourd'hui.
Mais c'est virtuel, ça.
Comment ?
Après, c'est jamais dans les faits, c'est jamais comme ça que ça se passe.
Ben là, aujourd'hui, c'est pas dans les faits. Qu'est-ce qui est dans les faits ? C'est la corruption. corruption, c'est la triche, et c'est un pouvoir profondément antidémocratique qui impose une crise à des millions de gens, et qui, d'un autre côté, ce sont des gens qui s'enrichissent, des fortunes indécentes. Donc ça, c'est les faits aujourd'hui. Nous, on discute effectivement, et c'est pour ça qu'on nous taxe d'utopique, mais nous, on pense que le monde, ça peut être autre chose. Qu'aujourd'hui, il y a des richesses énormes, et que ces richesses-là, elles sont pas réparties équitablement au sein de la population. Et ce qui est d'autant plus scandaleux, c'est que ces richesses-là, elles sont produites par des millions de gens qui travaillent, qui se tuent au travail, qui sont malades du travail, mais que ces richesses-là sont volées et accaparées par une poignée qui dirige le système. Donc ça, c'est les faits. Et malheureusement, il n'y a pas qu'en France, hein, c'est aussi ce qui caractérise l'ensemble des pays sur la planète. Donc c'est comment on remet ça en question, comment on discute de cette société-là, comment on la réorganise. Et nous, on pense qu'il y a les possibilités de la réorganiser rationnellement, de manière cohérente, et surtout de manière à ce que ça assure, encore une fois, à l'ensemble de la population, une vie décente.
Jean-Michel,
continue. On va quitter l'économie pour faire un petit peu d'histoire, de l'histoire récente. On va écouter la candidate écologiste de 2012, Eva Joly, qui demandait, c'était son idée, ça avait fait scandale à l'époque, la suppression du défilé militaire le 14 juillet. Elle parle de l'armée française, écoutez-la.
Je sais combien l'armée est importante et je sais aussi ce qu'on lui doit. Mais aujourd'hui, j'aimerais mieux que nos valeurs communes soient incarnées un 14 juillet par un défilé citoyen.
Alors pourquoi on a passé Eva Joly ? Parce que cette suppression du défilé du 14 juillet, qui à l'époque avait suscité une polémique incroyable, vous l'avez faite il y a quelques jours et personne ne l'a entendu. Alors on s'est dit, tiens, vous avez quand même du mal peut-être à imprimer dans cette campagne vos messages.
Si, il y a eu une dépêche AFP, il y a eu...
Oui, il n'y a pas eu de scandale.
Et sur les réseaux sociaux, j'ai eu des retours. Si,
mais ça fait moins tout... scandale qu'à l'époque.
Ouais, mais peut-être que les gens, ils l'acceptent un peu mieux, cette idée-là aussi.
Ah, vous
parce
croyez?
Que, ben oui, je sais pas, mais en tout cas, Eva Joly, à l'époque, on avait fait un communiqué de solidarité avec ce qu'elle disait. On était d'accord, mais oui, évidemment, nous, on est contre les défilés militaires. En plus, le 14 juillet, ça n'a rien à voir avec une démonstration virile de force militaire. Enfin, c'est complètement... Voilà, il y a un côté escroquerie. Donc, nous, on pense que les défilés militaires, c'est bidon, il faut arrêter ça. Et en plus, c'est nous, on est antimilitaristes, on est pour une société finalement ou une planète sans guerre, sans armée. Oui, c'est vrai, c'est ce qu'on défend.
Mais
donc si ça
ne
fait pas scandale,
contexte...
nous, quand je parle, je ne souhaite pas à chaque fois faire un scandale ou faire du buzz. C'est nos idées qu'on défend. Bon, maintenant, si les gens ils l'acceptent ou si ça ne scandalise plus comme avant, tant mieux finalement.
Peut-être que le contexte a changé, je ne sais pas si les gens acceptent l'idée, mais peut-être que l'armée, par exemple, quand l'armée française va au Mali pour sauver ce pays d'une invasion ou d'une prise de contrôle par les djihadistes, peut-être que le rapport à l'institution militaire aujourd'hui est aussi un rapport plus... Enfin, les gens ont plutôt confiance et envie d'une armée qui nous défend.
Parce ça, que, c'est ce que vous rêvez,
parce que
le coup de l'armée qui va sauver les peuples, qui va aider,
mais alors
ça, c'est vraiment la légende. Bon, mais il y en a plein qui croient encore aujourd'hui,
Mali,
mais même
non.
Au Mali.
Non.
La France, elle a toujours des rapports coloniaux avec la France-Afrique, avec ses anciennes colonies. La France, elle intervient militairement jamais pour les peuples. Attendez, je finis quand même une réponse.
Ouais.
La France, elle intervient jamais pour les peuples. Elle intervient toujours pour des raisons ou économiques, stratégiques, politiques, en soutien à des multinationales qui, là-bas, exploitent les peuples africains.
Si on est précis.
Donc, la légende d'une armée française qui va soutenir les peuples, ça, c'est complètement bidon.
Si on est
toutes
précis,
les interventions
le Mali,
militaires françaises aujourd'hui, elles ont des conséquences très graves.
Si on est précis, donc, le Mali, si une armée, bon c'est l'armée française, mais une armée n'était pas intervenue, l'État malien tel qu'on le connaît aujourd'hui n'existerait plus. Ce seraient les djihadistes qui en auraient pris le contrôle. Vous en convenez ?
Non, pas du tout. Non. Les djihadistes sont toujours là. Et puis l'État malien, je ne crois pas que ce soit un État démocratique. Mais comme la plupart des États africains, mais qui sont soutenus par l'État français.
Et les djihadistes
non, le problème,
n'ont pas
nous,
pris le contrôle de l'État.
Nous, on pose des rapports toujours coloniaux ou impérialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des puissances occidentales, des pays riches qui dominent l'économie des pays pauvres. Et aujourd'hui, on voit même soutien à des dictatures, des dictateurs corrompus. Hein, et on voit que les armées françaises ou que les casernes là-bas, ça ne se justifie aucunement parce qu'on est dans ce rapport-là. Et nous, on discute d'un monde où il y aurait de l'émancipation, où les populations pourraient avoir leur propre société, leur propre régime.
Mais ça ne passe jamais par une action. L'émancipation, ça peut aussi passer par une action militaire.
Ben non, là, par expérience, en tout cas, ce n'est pas le cas. On a vu les expériences militaires en Irak, en Afghanistan, du côté de l'armée américaine. On voit aujourd'hui les interventions militaires françaises au Moyen-Orient. Bon, ben, on voit au bout du compte que ça n'améliore en aucun cas le sort des peuples. Donc aujourd'hui, c'est aussi tout le problème qui nous est posé, effectivement. C'est que comment faire en sorte pour que les populations puissent vraiment avoir les moyens de se défendre et d'imposer des sociétés démocratiques,
mais
c'est pas
lui...
le cas aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on est antimilitariste, parce qu'on voit bien aussi ces rapports-là de domination et de rapports de force qui sont imposés depuis l'extérieur. Donc c'est ces problèmes qu'on essaie de poser.
Mais Monsieur Poutou, pour lutter contre le djihadisme dans ces pays-là, par exemple, qu'est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on laisse les choses se développer telles quelles ?
Non, mais justement, nous on pense que déjà il faudrait arrêter de vendre des armes à des dictatures comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar.
C'est pas du tout la question.
Eh bien, c'est quand même le début d'une réponse, hein, parce que quand on, là, il y a de l'hypocrisie, parce que on sait que le Qatar et l'Arabie Saoudite sont quand même des régimes qui sont connus pour être des soutiens financiers au terrorisme international. Donc les rapports diplomatiques avec ces pays-là, ça quand même, ça pose un
mais
problème.
Daesh, il faut vendre bien des
armes.
Daesh.
Non, mais vendre des armes.
Il faut bien combattre Daesh.
Où vont ces armes-là? Hein, où, c'est comme vendre des armes à l'État égyptien, dont on sait que ces armes-là vont servir à réprimer la population égyptienne. Et on sait que ces situations-là, ce sont des terreaux favorables au développement du terrorisme. Donc nous, ce qu'on pose comme problème, c'est qu'il y a une politique internationale qui est très problématique, et le combat contre le terrorisme, déjà, ça passe par discuter de ces questions politiques-là. Parce que c'est, on peut toujours dire qu'est-ce qu'on fait, tout ça. Mais là, déjà, on peut commencer à faire ça. Et même les interventions militaires, il faudrait discuter de à quoi ça sert, quelles sont les conséquences de ça. Après, nous, ce qu'on dit aussi comme problème, c'est que pourquoi, il y a, au lieu d'intervenir militairement de l'extérieur, pourquoi il n'y a pas des aides données aux résistants, comme la résistance syrienne contre Bachar el-Assad? Pourquoi avoir laissé pendant 6 ans la résistance syrienne?
Bah, les aides, c'est les armées. Les aides, c'est leur donner des armes.
Oui, directement à eux. Ah bah et voilà, pas laisser, donc, pas bah, laisser les États. Non, mais ce que là, d'accord, le problème qui est posé,
donc
c'est
les armes
que
et l'armée sert à quelque chose.
Pas les armées, là, ce sont des armes. C'est donner des moyens à la population de se battre elle-même, de se défendre. Là, ce qui s'est passé dans l'opposition à la Syrie, c'est que les islamistes, ils ont été financés et armés, effectivement. Donc, on peut même discuter du réseau d'armes mondiales, parce que la France en va en Arabie Saoudite et au Qatar. Bah, du coup, on pourrait presque dire que, ah ben, tiens, mais comme ça, les islamistes, ils sont armés. Mais par contre, l'opposition de gauche démocratique syrienne, elle n'a pas été armée et elle a été écrasée. Alors, pas complètement, parce qu'aujourd'hui, il y a toujours une résistance, mais on pourrait discuter de ça aussi. Donc, cette politique internationale, de tous ces aspects-là. Et donc, nous, on pense que, oui, effectivement...
Mais ce n'est pas contradictoire, M. Poutou, pas d'armée, des armes?
Oui, pas d'armée, au sens pas d'armée de pays riches qui interviennent militairement. Des armes, bon, ben oui, aujourd'hui, il y a des conflits, il faut se défendre contre les dictatures, contre les massacreurs. Oui, mais alors à qui on vend des armes?
Oui, mais qui vend les armes? Là, votre système se mord la queue, pardon.
Non, mais nous, dans l'idéal, on veut un monde sans armes, sans armée. Maintenant, bah, effectivement, il y a un problème, c'est à qui on vend les armes? La France fait le choix de le vendre à l'Arabie Saoudite, ça montre la saloperie de la politique de l'État français.
Vous voyez quand même la contradiction.
Oui, non, mais une contradiction, mais ok. Mais nous, on discute encore une fois d'idéal, et en même temps, aujourd'hui, on est d'accord avec ça. Aujourd'hui, on pense que la saloperie de l'État français, c'est de vendre à l'Arabie Saoudite au Qatar, et c'est pas d'aider la population syrienne de résister. Ça, on peut en discuter aussi très concrètement.
Et on continue dans une minute, il est 8h50, Victor Matteï là.
Des manifestations monstres au Venezuela. Le mouvement contre le président Nicolas Maduro et sa gestion du pays dure maintenant depuis des semaines. Nouvelle violence aussi à Caracas, la capitale. 3 personnes ont été tuées, 2 étudiants et 1 militaire. Le dernier grand oral des 11 candidats à la présidentielle. 15 minutes d'entretien individuel sur France 2 ce soir, à 3 jours seulement du premier tour. Un couple des Alpes-Maritimes condamné à 4 et 6 ans de prison ferme pour s'être fait passer pour des victimes de l'attentat de Nice. Ils avaient déjà été condamnés pour de fausses affirmations similaire après les attentats de Paris en novembre 2015. Lille, choisie par la France comme ville pour accueillir l'Agence européenne du médicament. Son siège est actuellement à Londres, mais cela ne sera plus possible après le Brexit. Et puis 13 ans après Monaco, de retour en demi-finale de la Ligue des champions de football, le club de la Principauté, vainqueur du Borussia Dortmund hier soir, 3-1, succès déjà à l'aller, 3-2. De son côté, la Juventus Turin a sorti Barcelone. Le tirage au sort des demi-finales a lieu demain midi.
France Info. Philippe Poutou est là avec nous ce matin sur France Info. Guy Birenbaum, question.
Vous êtes candidat à la présidentielle, ça suscite aussi des questions, des remarques sur votre image, votre personnalité. Ce matin, l'hebdomadaire Valeurs Actuelles met en exergue une citation de Marion Maréchal Le Pen qui est la suivante. Les journalistes se sont trouvés un nouveau petit chouchou, le petit Poutou, comme si le prolétaire était forcément crasseux, mal rasé, mal élevé. Comment vous réagissez à ce genre d'offensive?
Voilà, je souris parce que c'est tellement lamentable que ça fait sourire, mais il y a de la haine. C'est logique que l'extrême droite déteste ce que je suis ou ce qu'on représente nous, c'est archi logique. En plus, bon, il nous reproche le débat du 4 avril où Marine Le Pen a pas su répondre et...
Et voilà, sur l'immunité, quand vous aviez évoqué l'immunité ouvrière.
Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est bien aussi de le dire, de le préciser, que le Front National qui se dit anti-système, c'est quand même un sacré culot. C'est que c'est un parti qui est complètement intégré au système, qui fait de la politique de la même manière que les autres, qui magouille de la même manière, qui ment de la même manière, et qui en plus est lié à des milieux riches et tout ça, qui n'a rien à voir avec les plus pauvres aujourd'hui. Donc il y a une escroquerie de dire aujourd'hui que le FN est du côté de la population et des plus pauvres.
Les gens votent pour lui, c'est pas une escroquerie.
Non, mais ça c'est autre chose. Soucieux des intérêts de la population, qu'il aurait dans son programme des réponses aujourd'hui au chômage ou à la pauvreté des gens, ça c'est archi faux.
Comment expliquez-vous?
Ce qui est vrai aussi, c'est que ce sont il y a comme une mise en examen du côté du Front National. Qu'est-ce qu'ils font quand ils sont dans la mairie? Ce serait aussi votre boulot de rappeler quand même ce qu'ils font.
Je pense qu'on fait ce boulot.
Pauvres. Oui, non, mais c'est parce que Monsieur Apathy a toujours l'air de découvrir ce que je dis, et que...
Comment expliquez-vous? À mon âge, j'ai une forme de naïveté qui me
Comment expliquez-vous que ce discours impacte les ouvriers et pas le vôtre.
Ben oui, donc c'est vrai qu'on voit bien la différence dans les sondages, en tout cas, il y a un écart énorme. Mais oui, ben nous, ce qu'on pense, c'est que l'explication principale, c'est qu'il y a un climat de résignation énorme. Il y a pas mal de confusion dans les têtes. Les gens sont écrasés par la crise, la précarité, tout ça. Ben voilà, ça casse des solidarités. Ça fait qu'aujourd'hui, on raisonne plus comme à une certaine époque.
Avec vous ne devriez pas changer de discours.
Non, juste, je finis un petit peu.
Mais bien sûr, on vous laisse parler.
Oui, non, mais voilà, mais c'est donc il y a une sorte de conscience de classe, une conscience collective qui a été abîmée. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas mal de l'individualisme. Donc la résignation se mélange avec l'individualisme. C'est un peu le chacun pour soi. Et dans tout ça, ben effectivement, les idées de merde du Front National, ça fonctionne. Hein, l'idée même, on l'a vu hier, les discours haineux de Le Pen contre l'immigration, et puis voilà, les immigrants, tout le problème viendrait de là. Et donc aujourd'hui, ben ouais, on voit bien malheureusement que ça marche. Ça marche parce que les gens, ben ils croient qu'effectivement, ben s'il y avait moins d'immigrés, ben on aurait plus de boulot. Et nous, on essaie d'expliquer le contraire. Et aujourd'hui, ben on a du mal à convaincre, évidemment, parce que dans une société où les rapports sociaux sont très durs, où il y a une sorte de brutalité, la crise, ça fait beaucoup de dégâts physiquement, mais dans la tête aussi, psychologiquement. Donc nous, on essaie de répondre à ça. Et c'est vrai que notre présence à cette élection-là, c'est aussi de montrer que la colère, elle peut s'exprimer différemment. Et on peut discuter de ça, de comment collectivement, comment la solidarité peut se reconstruire et comment nous, le camp des travailleurs, le camp des salariés, on peut arriver à un moment donné à se battre contre les véritables responsables de la crise, contre les exploiteurs.
Il n'y a pas que la présence à votre élection. En acceptant de débattre avec elle le 4 avril, vous avez qualifié les idées du Front National comme vous les avez qualifiées à l'instant. Je ne vais pas le répéter, mais vous donnez une légitimité à ces idées. Il ne fallait pas débattre.
Ben non, ça ne sert à rien à voir. Pourquoi il ne fallait pas débattre au
contraire, je ne sais pas, vous avez...
On est dans cette
élection. Si vous pensez que quelqu'un a des idées comme vous les avez qualifiées dans une élection, si vous acceptez de débattre avec elle, vous légitimez ses idées. Ça fait partie du débat.
Enfin, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas trop ce que vous dites. Mais par contre...
C'est assez simple.
C'est simple, d'accord, mais...
Vous êtes posé la question de débattre, de participer. Alors, je vais reformuler ma question. Est-ce que vous vous êtes posé la question, finalement vous y avez répondu oui, de savoir si vous alliez débattre ou pas avec le Front National?
Mais ouais, on débat avec tout le monde. Nous, on est là pour ça, d'ailleurs. Pourquoi on est dans cette élection-là, si c'est pour, justement, ne pas confronter nos points de vue? Nous, on est prêt à confronter avec l'extrême droite.
Donc, c'est que ce point de vue a une légitimité?
Mais on dit pas qu'il est légitime, le point de vue. On dit que c'est des idées de merde. Après, c'est autre chose. Après, elles existent. Maintenant, nous, on est là pour les combattre. Nous, on est là pour dire aujourd'hui, oui, effectivement, ce système capitaliste, il faut le combattre, il faut se révolter. Et c'est ça qu'on essaie d'apporter, de faire le porte-parole des luttes sociales, de la colère qui existe. Parce que la colère, elle existe réellement.
On peut pas qualifier vos idées comme vous qualifiez les idées des autres.
Mais le Front National s'embête pas de qualifier les idées du NPA comme des idées de merde, en disant que je suis mal habillé, crasseux, parce que moi, je dis même pas ça. C'est que je discute même pas des individus. Je discute même pas de comment ils parlent, comment ils s'habillent. Je discute de leurs idées, de ce que ça veut dire aujourd'hui. Et s'en prendre aux immigrés aujourd'hui, eh ben oui, c'est dégueulasse. C'est de faire croire que finalement, le problème, il est là. Donc nous, on confronte. C'est vrai que d'une certaine manière, il n'y a pas véritablement un débat, parce que c'est pas comme si on pouvait discuter tranquillement de ces choses-là. Mais par contre, il y a une confrontation d'idées. Oui, effectivement, et on l'assume. Nous, on est dans cette élection-là pour faire entendre autre chose. Parce qu'on en a marre de ces politiciens professionnels qui sont tous installés avec leurs privilèges, et puis qu'aujourd'hui, ils disent carrément parler au nom de tout le monde. Et nous, on a envie de dire, en étant non politiciens professionnels, en étant ouvrier ou salarié, on a envie de dire qu'on existe, que notre camp social, il est là, et qu'il a des choses à dire, et qu'il a une colère à exprimer, et que cette colère-là, elle devrait pas se retourner contre aussi pauvres que nous, ou plus pauvres que nous, qu'elle devrait se retourner contre les milliardaires voleurs, contre les banquiers, contre les capitalistes, contre les politiciens corrompus, et c'est ça qu'on essaie d'exprimer. Et derrière ça, on essaie d'exprimer aussi une perspective qu'à un moment donné, il faut prendre la revanche, et qu'il faut qu'on retrouve confiance en nous-mêmes pour se battre. C'est un peu ça qu'on voudrait dire, et ça, c'est vrai qu'il y a une confrontation politique qu'on assume complètement.
Gilles, allez-y.
J'ai une question plus générale. À quoi sert votre radicalité? Parce que finalement, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que dans votre action a servi à quelque chose à un travailleur en France? Parce que vous contestez le système, il existe toujours. Et vous n'y changez rien du tout, finalement.
Ouais, ben aujourd'hui, le fait est qu'on n'a pas les moyens de changer les choses, mais c'est pas pour ça qu'on a tort, c'est pas pour ça qu'on se trompe. Hein.
À quoi sert la radicalité?
Là, je vois dans une usine, on s'est battu il y a 5 ans pour empêcher la fermeture de l'usine, on a réussi à l'empêcher. Voilà, au moins ça sert à ça, hein, les idées radicales de contestation, de se défendre, parce que aussi le problème qui nous est posé, c'est oser se défendre, penser que c'est légitime de se défendre pour son emploi, pour des meilleurs revenus. Et nous, ce qu'on essaie de dire dans cette campagne, là, c'est aussi de mettre en avant la légitimité, justement, de l'interdiction des licenciements, de la baisse du temps de travail.
Vous l'avez dit.
Et même y compris d'un point de vue écologique, l'arrêt du nucléaire et tout ça.
Tout ça, donc, vous ne l'obtenez jamais.
Mais on l'obtient jamais. Pour l'instant, on l'a pas, mais à un moment donné, ça peut changer. Ce qui se passe en Guyane aujourd'hui, c'est aussi très, très important. Ça montre aussi qu'à un moment donné, il peut y avoir des années de colère où les gens subissent, et puis à un moment donné, ça se relève, ça s'organise, ça bloque un pays, ça fait une grève générale, et ça pose les problèmes aussi d'une pauvreté et de choses qui sont injustifiables.
Vous parlez, donc, monsieur Poutou.
Et la Guyane aujourd'hui, peut-être que ça peut changer. Mais dans le passé, parce que là, vous parlez d'aujourd'hui, qu'on change pas les choses, mais n'empêche que le progrès social, ça a été toujours des luttes, des révoltes, des colères sociales. Mai juin 36, la révolte Révolution française, puisqu'on est marqué par ça, on en parlait tout à l'heure. Donc, à un moment donné, quand les populations se mettent en mouvement, les choses peuvent changer. Il y a eu les révolutions au Moyen-Orient, Tunisie, Égypte.
Une question de Fabien Sintès.
Juste ces mobilisations-là, donc on y croit, on espère, et peut-être qu'on a tort d'espérer. Mais en tout cas, on pense qu'à un moment donné, les choses peuvent changer.
Une question. Vous parlez de confrontation avec le Front National. Est-ce que vous utiliseriez le même terme face à Jean-Luc Mélenchon, par exemple? Est-ce que c'est une confrontation avec un Jean-Luc Mélenchon?
Réponse rapide.
C'est pas un adversaire Mélenchon, mais c'est un concurrent. Effectivement, on a à la gauche de la gauche, nous on veut dire qu'il n'y a pas que les idées de Mélenchon, il y a aussi les idées anticapitalistes, radicales, et justement qui pensent que la vraie perspective, c'est un mouvement social profond.
Ça veut dire que s'il était au deuxième tour, en tout cas, c'est votre candidat?
Là, on est au premier tour, et nous on veut dire que le vote utile, c'est Poutou, c'est le NPA, que justement, on a...
Propos politicien.
Le combat, comment?
Propos politicien.
2017, c'est votre dernière campagne?
C'est pas politicien, Mélenchon, c'est pas...
j'ai rien dit.
Mais non, mais on assume, c'est un concurrent, on n'est pas d'accord avec Mélenchon, c'est pour ça qu'on est là. Là, c'est pas non plus discuter du deuxième tour, on sait très bien que ça se discutera, mais
on va attendre le résultat du premier.
On est en désaccord profond avec Mélenchon.
Oui ou non, vous serez là en 2022?
Comment? Du deuxième.
Oui non, vous serez là en 2022 ou pas?
Non. Allez, on sera à la retraite, parce qu'on est pour la retraite à 55 ans.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Pour les boulots pénibles.
Merci à tous, on se retrouve demain.